Bonsoir. Je ne sais pas si je vais tout vous dire. En tout cas, je vais avoir la joie ce soir de témoigner de cette belle œuvre que j'ai la chance de servir. Une œuvre où l'on voit la jeunesse du peuple de Dieu. Donc, Espérance Banlieue, que je vais décrire rapidement, c'est la création d'écoles libres, nouvelles, au service des populations des quartiers en urgence éducative. Pourquoi cet engagement au service de la jeunesse? Car c'est celle qui nous permet de toujours rester jeunes. Celle qui avait permis, cet engagement qui avait permis de dire au général MacArthur que la jeunesse n'est pas une période de la vie, elle est un état d'esprit. Et on restera jeune tant que on restera réceptif à ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est grand, au message de la nature, de l'homme et de l'infini. Donc, on a la chance, j'ai la chance, de servir ces écoles qui sont en train de se créer dans, un peu partout en France, au service de la jeunesse. Alors, comment, quels sont les axes de ces écoles ? C'est d'abord former le jeune dans toutes ses dimensions et le responsabiliser. C'est le considérer son intelligence, son corps, sa sensibilité, son âme, le fait que ce soit un être de relation, un enfant, un frère, une sœur, un camarade, un acteur de sa commune, un acteur de son département, un citoyen français et aussi un dépositaire de cette culture européenne. Dans nos écoles, on essaye de créer un espace, un cocon, pourrait-on dire, où la confiance sera reine. Autour de lui, autour de l'enfant, des enfants, une équipe professorale qui va tenter de les faire grandir. Tous les adultes, qu'ils soient enseignants ou éducateurs, qu'ils aient les enfants en cours ou simplement de visu dans la cour, vont avoir le devoir de contribuer à les faire grandir. Chaque enfant appartiendra à une équipe interâge, comme celles qui sont pratiquées par cette belle institution centenaire lancée par Baden-Powell. Au sein de ce cocon, où on va prendre en compte toutes les dimensions de l'enfant, on va tâcher de redonner confiance. Grâce à des petits effectifs, grâce au fait de distinguer et de saluer ses succès, fussent-ils minimes, le fait aussi de lui ouvrir les yeux sur les autres, de ne pas en avoir peur, même s'il est différent de lui. Dans les banlieues, que nous connaissons tous, la différence est souvent mal accepté. C'est donc s'ouvrir à d'autres habitudes que celles de sa famille ou de sa communauté. C'est de créer cette fraternité dont l'Église nous a montré le modèle. Dans cette école, nous allons tenter de nous adapter aux difficultés de chacun par un choix pragmatique des méthodes, avec un effort sur les matières fondamentales, le lire, l'écrire, le compter, mais aussi l'histoire de France. Dépositaire d'un patrimoine, en tant que citoyen français, nous avons le devoir de leur faire connaître, première étape, avant de leur faire aimer. Puis, cet enfant, accompagné par ses parents, qui sont les premiers éducateurs, doit être aidé, et leurs parents aussi doivent être aidés à être réinstaurés dans leur autorité. Et à ce titre, le corps professoral transmettra, échangera plusieurs fois par semaine avec les parents, que ce soit au portail de l'école ou par SMS, afin de pister toute difficulté qui serait toute gêne, qui empêcherait l'enfant de s'ouvrir au savoir. Puis, dernier axe sur lequel nous nous appuyons, c'est un regard dépassionné sur les questions religieuses. Dans le cadre de ces relations de confiance avec les familles, souvent blessées par l'attitude laïciste, nouvelle religion moderne de l'école publique, nous évoquerons la question religieuse avec ce qui est développé à l'intérieur de l'école, c'est la raison. Et donc, à travers l'histoire et la littérature, nous tenterons de lui faire aborder ces sujets-là et d'en faire des êtres de bonne volonté. Donc vous voyez qu'à travers cette petite présentation de nos écoles, qui repose sur les trois piliers que sont l'académique, c'est évident pour une école, l'éducatif, c'est moins souvent le cas, et aussi la dimension intégrative, afin de leur faire aimer la France dans laquelle ils ont la chance d'habiter. Ces écoles, aujourd'hui 8 en France, une à Montfermeil, la première, l'autre à Marseille, à Roubaix, à Asnières, à Pierre-Bénite, à côté de Lyon, à Saint-Étienne, à Mantes-la-Jolie, à Sartrouville, demain à Angers, à Tours, Orléans, Argenteuil, Reims, une cinquantaine d'autres en préparation, me permettent de vous dire la joie que je vois de voir une nouvelle jeunesse se lever, une nouvelle vitalité de la société civile qui disent « nous ne pouvons pas rester en dehors de ce mouvement ». Nous avons envie de nous investir pour cette jeunesse. Là où les discussions, les liens étaient absents, ils sont en train de se recréer, se retisser. Je vous ai cité Mantes-la-Jolie, le quartier du Val-Fouré, qui a souvent défrayé la chronique. L'atmosphère a changé en l'espace de quelques mois. Donc ce que nous vivons est tout simplement exceptionnel. Nous voyons que c'est possible de créer un avenir en commun en France pour toutes ces populations qui veulent communier de nouveau à la France. Autre espoir, autre espérance qui est en train de se lever, c'est la mobilisation d'un corps professoral. Tous n'étaient pas professeurs, mais beaucoup, tous avaient la vocation, qui ont envie de transmettre, de s'investir pour transmettre le français, mathématiques et la culture française. On a du mal aujourd'hui, dans la plupart des établissements existants, à trouver des professeurs prêts à s'investir dans cette belle vocation. Dans nos écoles, nous avons des listes d'attente de professeurs qui veulent s'investir. Donc il y a urgence à ce que nous puissions continuer à les développer partout en France. Quelques fioriti pour terminer. Lors d'un déplacement au mois de juin, il y a 2 ans, les enfants étaient à la campagne pour réviser le brevet. On avait décidé de leur faire visiter les plages de débarquement pour qu'ils puissent s'approprier, toucher du doigt plus facilement cette période de l'histoire. Nous tombons par hasard. Mais est-ce que c'est un hasard? En visitant la pointe d'Oc, sur une prise d'armes organisée par une compagnie de pompiers, de sapeurs de pompiers de Paris, qui célèbre la mémoire de ceux qui sont morts ici, et surtout d'un des leurs qui était décédé dans une intervention à quelques mètres d'ici. Quand je parle d'ici, c'est de Saint-Sulpice. Et le capitaine lit la lettre d'un jeune résistant, quelques 60 ans auparavant, qui allait être fusillé et qui dit « Cher papa, chère maman, je vais mourir pour mon pays, mais il n'y a rien de plus beau que de mourir pour son pays. Je donne ma vie pour mon pays. Ne soyez pas triste, je prierai pour vous. Vous pouvez être fiers de votre fils. » Et à ce moment-là, un des enfants, Mohamed, tire la manche du professeur d'histoire et lui dit « Monsieur le professeur, je commence à comprendre tout ce que vous nous avez enseigné depuis plus d'un an. » Un blanc. Il poursuit. Cette France-là, cette France généreuse, nous, on peut l'aimer. Des petites priorités comme ça, nous en avons plein au quotidien. Évidemment, ça réjouit le cœur de tous les professeurs et ça leur donne le courage, parce qu'il en faut, de continuer à avancer tous les jours pour essayer d'éveiller l'intelligence, le cœur et l'âme de ces enfants dont ils ont la charge. Aujourd'hui peu, 350 en France, dans les 8 écoles, mais demain certainement beaucoup plus, pour nous offrir une véritable espérance dans le fait qu'une jeunesse se lève pour rayonner de nouveau de cette belle France pour laquelle nous prions pendant toute cette nuit. Je voudrais donc conclure ce petit mot sur cette belle page de l'histoire de France qui est en train de s'écrire. Et en écho aux propos introductifs que je citais du général MacArthur, par ces quelques mots de Élie de Saint-Mard, qui écrit une lettre aux jeunes, qui s'appelle « L'honneur de vivre ». Je dirais à tout homme que tout homme est une exception, qu'il a sa propre destinée, sa propre dignité, qu'il faut savoir respecter. Je lui dirais qu'envers et contre tous, il faut croire à son pays et en son avenir. Enfin, je lui dirais que de toutes les vertus, la plus importante, parce qu'elle est la motrice de toutes les autres et qu'elle est nécessaire à l'exercice des autres, de toutes les vertus, la plus importante me paraît être le courage, les courages, et surtout celui dont on ne parle pas, et qui consiste à être fidèle à ses rêves de jeunesse. Et pratiquer ce courage, ces courages, c'est peut-être cela, l'honneur de vivre. Merci. Un petit peu vite, donc je vais me permettre de continuer ces belles histoires, ces petites fioritures dont je parlais tout à l'heure. Une me tient particulièrement à cœur, c'est celle d'une jeune fille qui était à Montfermeil, donc la première école lancée par la Fondation Espérance Banlieue, et qui, à l'issue de sa troisième, rejoint un établissement privé sous contrat, en seconde, dans l'ouest de la France, au milieu de la nature, un superbe endroit. Et là, on peut se dire qu'elle quitte la banlieue difficile dans laquelle elle est, elle commence à goûter à cette France que nous aimons, que nous avons la chance de pouvoir parcourir pendant nos vacances. J'apprends à Noël qu'au mois de qu'à la Toussaint, elle est partie de l'école. N'imaginez pas la tristesse que j'ai pu rencontrer en me disant cette tentative de finalement d'intégration, de découverte de la France n'a pas marché, ne fonctionne pas. Elle repasse à l'école parce que le lien créé avec les anciens est très fort. Et elle nous raconte que c'est son père qui l'a retiré de l'école parce qu'elle avait pris goût au compli le soir à la messe qui était dispensée et célébrée dans l'école. Évidemment, nous ne pouvons qu'être tristes qu'elle n'ait pas la possibilité de continuer à profiter de cette découverte. Elle nous dit « Vous en faites pas, monsieur le directeur », puisqu'elle s'adressait au directeur. « J'ai vu le Christ ». Donc, je vous le disais que dans ces écoles, nous essayons, en restant à notre place, de faire des hommes de bonne volonté, tout simplement. Et après, il faut laisser travailler la grâce, qui est finalement le souffle de cette jeunesse dont je parlais au début de mon intervention. Ce souffle de la jeunesse pour lequel nous avons prié pendant toute la nuit et qui est déjà tangible aujourd'hui, qui se réalise partout à l'aune de l'intensité et de notre dévotion que nous serons manifestés. Je pense que nous avons la chance, qui est un grand honneur, d'être les disciples du Christ. Le chemin est quelquefois dur, chaotique, mais il nous permet d'écrire de très belles histoires et il nous accompagne toujours pour que nous puissions y rayonner et témoigner de cet amour pour lequel il est mort pour nous sur la croix. Au sein de ces écoles, que j'espère faire se multiplier en France, quelque chose est en train de se passer. Je vous ai parlé de ces enfants, je vous ai parlé de ces professeurs. Je n'ai pas eu le temps encore de vous parler de l'ensemble de la société civile qui se mobilise pour organiser ces écoles. Mais finalement, on voit une refondation autour de ce creuset que sont ces écoles, de notre pays, des liens qui nous semblaient impossibles, cette société qui semblait de plus en plus fracturée et qui l'est malheureusement, et bien ici, dans ces écoles, autour de l'avenir de la jeunesse, se recrée, se retisse, se refonde. Et donc, en soufflant sur ces braises que j'ai eu la joie de vous présenter ce soir, et pour lesquelles nous allons, enfin, le souffle de l'Esprit Saint que nous allons essayer de pousser et d'encourager ce soir par nos prières, et bien ces braises vont rougeoyer et il va y avoir tel un feu se répartir partout en France, de telle manière à ce que nous puissions voir se lever des générations d'hommes et de femmes libres, posant leur choix au service de notre pays. Et ça reste, ça devient possible. Merci.